J'ai reçu il y a pas très longtemps le physiothérapeute Denis Fortier qui venait de publier « C'est normal à votre âge » avec un point d'interrogation où finalement il nous expliquait comment on pouvait, nous aussi de notre côté, sans courir tout de suite à l'urgence, prendre notre santé en main. Et un chapitre de son livre porte sur la surmédicalisation, comme quoi c'est un fléau. Et je trouvais que c'était important de revenir juste sur ce chapitre-là avec Denis Fortier, entre autres. Merci Denis d'être là.
Bonjour. Bonjour Isabelle.
On s'en était parlé la dernière fois. Tu étais venue il y a une couple de semaines nous dire à quel point on pouvait vraiment faire beaucoup plus pour notre propre santé, être un peu notre propre médecin. Et dans ce cas-ci, être notre propre médecin, c'est pas se prescrire, s'auto-prescrire des médicaments. Bien au contraire, c'est de dire on en prend beaucoup trop de médicaments et on aurait peut-être avantage en diminuer le nombre.
Bien, on a certainement avantage à réfléchir à ça, à en parler à notre médecin, à savoir aussi pourquoi on prend ces médicaments-là. Et surtout, quand on se fait prescrire un médicament, bien, on ne se le fait pas nécessairement prescrire pour l'éternité. Il faut que ça arrête peut-être pour certains médicaments. Donc, il y a plein de médicaments que mes patients, par ailleurs, se font prescrire à court terme, mais souvent, 3, 4, 5, 10 ans encore, ils les prennent encore et là, ça s'accumule. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus à plusieurs égards pour notre santé, mais aussi peut-être pour la santé des finances. C'est vraiment très, très large comme sujet. Merci de nous permettre de parler de ce sujet-là. Moi, dans mon livre, c'était absolument fondamental que j'aborde le sujet de la surmédicalisation.
Avec nous ce matin, le docteur Cara Tannenbaum, elle est gériatre, elle est directrice du Réseau canadien pour la déprescription. C'est comme un nouveau mot qu'on apprend ce matin, la déprescription, qui est le principe de ne plus prescrire. Docteur Tannenbaum, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi chercheuse au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et en 2015, vous avez mis sur pied le Réseau canadien pour la déprescription. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi c'est important pour vous d'intervenir et de dire aux gens, arrêtez d'en prendre des médicaments, on en prend trop.
Dans notre société, on est très heureux que les médicaments avec les nouveautés dans la science sauvent des vies. Mais on est devenu une culture de prescription. Alors, les médicaments s'accumulent. On est inondé, disons aujourd'hui. On est inondé, malheureusement, par les médicaments. Et donc, étant gériatre, je vois beaucoup de personnes qui arrivent à mon bureau qui prenaient 10, 15, 20, même 21 pilules par jour. Et je me suis dit, mais ça n'a pas de l'allure parce que les médicaments, il y a des interactions un entre l'autre. Il y a aussi des effets secondaires. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que il y a des effets secondaires dont les personnes ne sont pas au courant. Par exemple, des problèmes de mémoire, la diminution de la concentration. Alors, je me suis dit, est-ce que les gens sont au courant du fait que les médicaments peuvent non juste aider, mais aussi faire du tort si on réfléchit pas sur le bon profil de médicaments, si on va pas chercher des traitements non médicamenteux. Et donc, on a lancé un peu notre réseau de déprescription. Vous avez raison, c'est le contraire de la prescription pour un peu balancer la prescription et la déprescription pour que chacun ait le bon profil pour eux, pas trop, pas assez, mais vraiment dans le milieu. Alors, c'est ça, on fait de la sensibilisation, le réseau des prescriptions, il y a des membres du grand public, des professionnels de santé, même des décideurs. Et l'idée, c'est que chacun, tout le monde qui écoute votre émission, la prochaine fois qu'ils vont parler à leur professionnel de santé, soit infirmière, pharmacien, médecin, qu'ils posent la question, ai-je encore besoin de ce pilule?
C'est une bonne question. En même temps, et tu le dis bien dans ton livre, Denis, tu dis souvent, il y a trop de personnes qui semblent croire que le nombre de médicaments qu'on leur prescrit est proportionnel à la qualité des soins qu'ils reçoivent. C'est pas parce que tu prends beaucoup de pilules que tu es mieux soigné, finalement, par ton médecin.
Pas nécessairement. Bien sûr, il y a des gens qui ont des maladies chroniques qui requièrent plus de médicaments, mais en même temps, il y a une réflexion aussi à se poser parce que parfois, le fait de prendre plusieurs médicaments, ça nous cause d'autres problèmes. Moi, je suis physiothérapeute. Ça arrive souvent que j'ai des patients qui prennent des opioïdes et qui vont prendre d'autres classes de médicaments qui vont, par exemple, augmenter le risque de chute, qui vont diminuer leur équilibre. Donc, c'est vraiment très complexe et effectivement, c'est pas parce qu'on en prend plus qu'on est mieux traité. Souvent on va entendre la réponse à ça qui veut dire un peu, les patients veulent avoir des médicaments.
Oui, beaucoup de médecins disent ça.
Mais moi, j'ai de la misère avec cet argument-là, Isabelle, parce que est-ce qu'on peut leur expliquer aux patients les effets de ces médicaments-là et leur dire, par exemple, que si on parle des opioïdes, quand on les utilise à long terme, l'efficacité n'est pas démontrée. n'y a pas de démonstration d'efficacité pour ce qui est des opioïdes sur une utilisation à long terme. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut leur dire? Et quand on leur donne cette information-là, tiens donc, les personnes, les patients sont prêts à peut-être prendre eux-mêmes leur santé en main. Et ça, il y a des études qui le démontrent, que plus on donne l'information, plus le patient est peut prendre une bonne décision. Donc, c'est pas vrai de simplifier en disant, ben, les patients veulent des médicaments. C'est peut-être parce qu'on leur a pas assez bien expliqué qu'un médicament, c'est parfois indispensable. Ma mère serait morte 20-30 ans plus tôt si elle avait pas eu ces médicaments. Elle avait plein de problèmes de santé. Par contre, est-ce qu'on peut aussi dire que le médicament, c'est pas une panacée? Et parfois, de ne pas de donner de médicaments, c'est parfois la meilleure thérapie.
Et l'opioïde est un bon exemple parce que c'est souvent utilisé comme antidouleur.
Mais
en fait.
Oui, mais c'est beaucoup.
On parle de quel genre de médicaments, par exemple? Nomme des noms de médicaments. Enfin, sont
le, opioïdes. Le dilodide, par exemple, qui est un opioïde assez fort. La codéine, qui est un opioïde un peu moins fort, pour le dire comme ça. Mais donc, de savoir d'abord que ce qu'on prend, c'est des opioïdes. Isabelle, les opioïdes, en 2017, ça a tué 4000 personnes. Ça, c'est plus que les accidents de voiture, les noyades, les morts par empoisonnement réunis ensemble. Mmh. Donc, ça tue vraiment beaucoup de monde. Et en 2017, il y a 13 % des Canadiens qui en ont pris.
Incroyable.
Mais est-ce qu'on peut juste transmettre cette information-là et aussi
la morphine, c'est là-dedans aussi.
La morphine, c'est aussi là-dedans. Ouais. Il y a ça compte vraiment plusieurs médicaments. Et est-ce qu'on peut juste transmettre cette information-là? Quand je donne des conférences, il y a des gens qui prennent des opioïdes et qui le savent pas.
Exact.
Mais je dis pas de pas prendre d'opioïdes, hein, c'est pas ça que je dis, mais de le prendre en connaissance de cause et surtout peut-être d'arrêter de prescrire des choses dont l'efficacité a pas été démontrée.
Oui, votre opinion là-dessus, Dr. Tannenbaum?
Je pense que Denis a fait le point. Il faut absolument savoir quels médicaments on prend et pour quelles raisons. Nous, dans le réseau des prescriptions, on a un site web, réseau des prescriptions. Et n'importe qui peut aller sur le site web avec leur ordi, avec leur iPad, ouais. Puis ils peuvent cliquer sur patients et public et aller chercher, il y a des brochures sur ressources où on liste, est-ce que vous prenez un opioïde? Puis on met le nom de tous les opioïdes.
Mais ça, c'est le genre d'information que le pharmacien peut donner.
Absolument.
C'est la meilleure et première personne à qui on peut poser la question.
Absolument. Il y a deux façons de poser la question, soit quand on renouvelle nos médicaments, ou même mieux, on peut prendre rendez-vous avec notre pharmacien. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas que on peut prendre rendez-vous à un moment qui nous convient avec notre pharmacien, s'asseoir et écrire à côté de chaque nom du médicament pourquoi est-ce qu'on le prend et est-ce que c'est potentiellement risqué, disons, ouais. Parce que le gouvernement du Canada a démontré que à peu près 50% des femmes de 85 ans et plus prennent un médicament qui fait plus de tort que du bien. Mm. On appelle ça des médicaments risqués, disons. Mm. Et sur la liste, il y a des somnifères, des médicaments qu'on prend pour la peau sèche, des pilules. Il y a d'autres pilules, par exemple, les médicaments parfois qu'on prend pour le reflux. On est censé seulement les donner pendant 8 semaines, mais il y a des personnes qui les en prennent pendant des mois, même ouais. Des années. Ça peut toucher des reins, ça peut causer ouais. Des effets secondaires. Alors, absolument.
On a Alexandra qui nous appelle. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Je pense que vous bonjour. Êtes rendu compte que vous prenez peut-être un petit peu trop de médicaments.
Mais en fait, non, c'est pas le cas. J'ai consulté il y a environ un mois un spécialiste en orthopédie pour une douleur à la hanche. Et le spécialiste que j'ai rencontré ne fait pas les hanches, donc faisait seulement les coudes et les genoux. Il me dit en fait, ben je vois pas de problème sur les rayons X que je vois. Mais le temps de te transférer à un autre spécialiste, je vais te prescrire des médicaments. Fait qu'il m'a prescrit 3 médicaments sans même voir un problème. Puis moi, j'ai vraiment été outrée de ça, de recevoir 3 prescriptions différentes, de pas savoir ce que c'était. Et le médecin savait pas plus non plus le problème que j'avais. Donc, ça vous donne vraiment comme une preuve. C'est pas le premier cas là, de surmédication que j'ai.
Donc, vous n'avez pas pris finalement. On vous avait prescrit trop de médicaments, mais vous ne les avez pas avalés, ces pilules.
Ben non, je les ai pas pris parce que je me fais prescrire 3 bouteilles de médicaments sans savoir ce que j'ai. Est-ce
ben
que
oui.
C'est bon? J'ai
c'était quoi? Vous souvenez-vous ce que...
Non, je m'en souviens pas. Je sais qu'il y avait un médicament qui était quand même fort. Il fallait que je prenne un autre médicament pour pas que c'est à cause des brûlements d'estomac. Fait que c'était comme sans fin. Je trouvais ça un peu aberrant de me faire dire par un médecin, ah, je sais pas ce que tu as, je vois pas que t'as un problème.
Ouais.
Mais voici 3 médicaments à aller chercher.
Et vous les aviez pas forcément demandé, vous aviez pas insisté, vous avez pas tordu le bras de votre médecin pour repartir avec une prescription, là?
Ah ben non, je voulais juste savoir ce que j'avais parce que, tu sais, j'ai 30 ans, j'ai super mal à une hanche. Tu sais, je comprends que le rayon X ne démonte pas, mais il y a peut-être quelque chose.
Tout à fait.
J'ai pas envie de prendre quoi que ce soit pour.
Avez-vous toujours mal, là, Alexandra?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous faites pour essayer de combattre le mal?
Ben, j'endure.
Ouais, c'est ça.
C'est ce qu'il faut, mais je préfère endurer parce que c'est un mal qui s'endure que d'ingérer quelque chose.
Qui a peut-être causé d'autres problèmes, effectivement. Merci beaucoup de votre appel. Je vais demander à Denis, peut-être, Denis Fortier, qui est physiothérapeute, de peut-être réagir à ça.
Ah, mais complètement. C'est un exemple assez classique, hein. Donc, la médication, dans le cas d'Alexandra, elle a reçu, on lui a proposé pour combler un manque de ressources. Mais qu'est-ce que c'est ça? Où on est rendu?
Pourquoi on est rendu là, Denis?
Non, mais quand même, il faut se poser des questions. Parce que cette médication-là que Alexandra aurait pu aller chercher, peut-être qu'on comprend qu'elle n'a pas été la chercher, c'est pas gratuit pour la société. Ça coûte une fortune. Pourquoi ne pas proposer, tant qu'à payer pour ça, proposer quelque chose qui fonctionne d'une part? Donc, le manque de ressources, là, un instant, là, on met cet argent-là ailleurs. C'est des choix politiques qu'on fait. Deuxième chose, elle a 30 ans. On voit bien que la surmédicalisation, c'est pas réservé aux 99 ans et plus. C'est tout le monde. Et Alexandra va continuer à vivre. Et c'est bien démontré que les patients qui se font prescrire des opioïdes, c'est peut-être ce qu'Alexandra a reçu, se font prescrire des opioïdes justement, par exemple, pour combler un manque de ressources. Cette personne-là va la prendre 10 pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Et là, le facteur de risque de développer une dépendance augmente. Et juste un petit commentaire additionnel, c'est que pour plusieurs opioïdes, quand on les prend longtemps, quel est un des effets secondaires? L'hyperalgésie. C'est quoi l'hyperalgésie? C'est être plus sensible à la douleur. Donc, de prendre des opioïdes pendant des années, développer de l'hyperalgésie. Et c'est vrai pour plusieurs médicaments, de prendre un médicament qui est pas prescrit, qui devrait pas être pris trop long, aussi longtemps. Un des effets secondaires, c'est que ça favorise le problème pour lequel, au départ, le médicament avait été prescrit. Donc, Alexandra, 30 ans.
C'est comme s'il y avait une accoutumance. Puis à un moment donné, ton corps a besoin de ce médicament-là quasiment. Quelque chose comme ça, oui, docteur? Ouais.
Oui, avec les opioïdes, on peut avoir une accoutumance après une semaine. Et donc, Alexandra, d'avoir appelé parce qu'elle a mis en lumière deux grands problèmes. Premièrement, le problème, pourquoi est-ce qu'elle a reçu toute une bouteille de pilules? Par exemple, après une chirurgie, peut-être c'est normal, j'accepte qu'on ait la douleur après la chirurgie. Peut-être pendant deux ou trois jours, on peut prendre des médicaments pour combattre la douleur. On veut pas que les gens souffrent non plus, hein? Mais donner toute une bouteille, les gens pensent qu'ils doivent prendre ces médicaments pendant un mois, après un mois, ouf! Accro aux opiacés. Ouais. Absolument. Alors, elle a mis en lumière le fait que prendre un ou deux pilules, OK, mais ne pas attendre à ce qu'on continue à les prendre pour jamais, pour toujours, comme on a dit. La deuxième chose qu'elle a mis en lumière, c'est cette idée de, je vais introduire un terme, une cascade médicamenteuse. Mmh, mmh. Et donc, l'orthopédiste a prescrit probablement un anti-inflammatoire. Mais on sait que quand on prend les anti-inflammatoires, ça fait mal à l'estomac, puis on peut avoir des saignements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ulcères qui arrivent à cause des anti-inflammatoires. Donc, le médecin, c'était bon qu'il a prescrit quelque chose pour protéger l'estomac. Alors, il a prescrit un médicament pour protéger l'estomac pendant qu'Alexandra prendra l'anti-inflammatoire. Alors, c'est une cascade. Hein? Ouais. On prend un médicament, le médicament peut causer un autre tort, alors on donne un autre médicament pour protéger contre le premier médicament. Et il y a une cascade et ouf. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir et on est fiers qu'elle n'a pas pris des médicaments sans savoir c'est quoi la cause sous-jacente.
Oui, sauf que comment on trouve réponse à sa cause? Alexandra, pendant ce temps-là, puis il y en a plein, là, il y a des milliers de Québécois et j'en ai très proche dans ma famille qui se demande qu'est-ce que j'ai en attendant. Il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de réponse. Des fois, c'est possible que ce soit une maladie auto-immune qu'on n'a pas découvert. Mais normalement, on devrait être capable, avec un suivi, de dire voici, fort probable que vous avez telle maladie ou tel problème et on va essayer de vous régler ça. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, malgré les milliards qu'on met dans notre système de santé, qui se retrouvent face à eux-mêmes. Alors, prendre une pilule, ben ça devient le geste réflexe. Puis oui, peut-être un peu facile, mais devant l'inconnu et devant la souffrance, est-ce qu'on peut blâmer les gens? Moi, je pense que non. On va aller voir ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez. 514-790-9850. Sans frais, partout au Québec, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous avez l'impression qu'on on vous a un petit peu trop prescrit des médicaments. Et si vous vous questionnez par rapport à ce que vous prenez en ce moment, n'hésitez pas à nous poser la question. On a un spécialiste, un physiothérapeute, on a une médecin avec nous. Vous pouvez bien sûr être spécifique, sans trop vous étendre sur votre cas, bien sûr, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir intervenir. Alors, on vous donne la parole tout de suite après ceci. Mais je suis bien contente que vous trouviez notre sujet intéressant. Nos lignes sont pleines. On va essayer de vous donner la parole au plus grand nombre possible. On commence avec vous, Lise. Bonjour. Je pense que vous prenez beaucoup de somnifères. Vous aimeriez peut-être diminuer?
Ben oui, exactement. Donc, moi, j'ai eu un cancer en 2016. Bon, tout a été réglé et fait, mais on m'avait prescrit à ce moment-là des somnifères à cause de l'anxiété, etc., que je prends toujours. Donc, dernièrement, j'ai demandé à mon médecin en disant « j'aimerais bien arrêter ça » parce que dans le fond, j'en avais pas besoin avant, mais je ne dors pas quand j'en prends pas. Je suis accro, en fait. Je suis accro à ça, je ne dors pas. Donc, il m'a dit « non, vous voyez ça avec le pharmacien ». J'ai été voir avec le pharmacien qui m'a dit « non, vous voyez ça avec le médecin ». Fait que moi, je suis...
Avez-vous une infirmière autour de vous? Pourriez voir ça avec l'infirmière, peut-être?
Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça spécial. Il n'y a personne qui peut m'aider à décrocher, dans le sens de je prends de l'oxazépam. Mais si j'en prends pas, là, je dors pas. Je suis anxieuse. Je le traîne partout. Quand je vais en voyage, c'est la première chose à laquelle je pense, parce que sinon.
Ouais.
Mm-hmm. Ouais.
Peut-être Dr. Tannenbaum là-dessus?
Oui, j'aimerais vous aider. J'ai toutes les solutions pour vous. Merci d'avoir nous appelé. Alors, premièrement, il faut savoir qu'encore une fois, après 2 semaines, 4 semaines, le corps devient accro aux somnifères. Et quels font les somnifères? Un somnifère comme oxazépam que vous prenez, il y a aussi l'ativan que les gens prennent, lorazépam, tout ce qui finit avec PAM, sur la boîte, c'est une somnifère. Et le mécanisme d'action de ce pilule, c'est que ça fait endormir le cerveau. En fait, ça fait inhiber, ça fait diminuer l'action des nerfs. Et donc, si vous arrêtez, si vous prenez pas le somnifère une nuit, ouf, ne faites ça jamais parce que les nerfs vont réveiller et on peut avoir de l'agitation. Alors, pour tout le monde qui aimerait sevrer, je dis le mot sevrer le somnifère, je vous dis que ça va vous prendre 3 à 4 mois. Si vous faites ça plus rapidement que 3 à 4 mois, il y aurait un rebondissement du symptôme. Alors, je vous invite d'aller immédiatement sur le site web Réseau des prescriptions. Cliquez sur Patients et grand public. Cliquez sur Ressources. Et sous Ressources, il y a une brochure qui s'appelle la brochure Empower pour les somnifères. Et l'idée, c'est de faire de l'empowerment. Et il y a un plan de sevrage.
Il est en français, le site, quand même?
Oui. Okay. En fait, nous sommes le seul site qui a toutes nos ressources en français. Il y a deux ressources qui vont être très, très importantes pour vous. Le premier, c'est le brochure Empower pour les somnifères. Et il y a un plan de sevrage avec des images. Alors, ça vous dit, par exemple, pendant 2 semaines, prendre une demi-pilule seulement... le mercredi et le dimanche.
C'est
mais
un
les
plan
autres
de
jours,
réduction,
oui,
finalement.
Mais les autres jours, prenez le pilule. D'accord. Après 2 semaines, peut-être prenez une demi-pilule 3 fois par semaine. Mm-hmm. Après ça, on diminue, ça prend 4 mois. Mais il y a une autre brochure qui s'appelle « Vaincre le sommeil sans pilule ». Et là, on parle des traitements hygiène de sommeil, ce qu'on appelle, c'est un grand mot, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Et là, ça part du fait que le cerveau doit s'habituer à bien dormir, qu'il faut pas aller dans le lit, il faut pas aller coucher, disons, à 9 heures du soir, si notre corps a seulement besoin de 6 ou 7 heures, qu'il faut écrire toutes ses anxiétés, qu'il faut pas boire du thé ou du café avant de dormir, il faut pas faire de l'exercice avant de dormir. Et si on se lève la nuit, il faut sortir du lit, lire un livre, mais pas dans le lit, parce qu'il faut associer le lit au sommeil. Ouais. Il y a trop de personnes qui sont au lit trop longtemps, puis elles ne dorment pas.
Lise, voilà un bon début de sevrage pour vous. Donc, je rappelle le site pour aller chercher de l'info et des ressources sur le site du réseau des prescriptions. Hein, c'est le réseau canadien pour la déprescription. Le docteur Cara Tannenbaum, mon invité, est directrice de ce réseau. Et le site Internet, c'est réseau des prescriptions. C'est réseau de prescription. Ça fait, c'est comme prescription, mais de qui enlève la prescription, en fait, on comprend le concept, .ca. On pourra le mettre, je le mettrai sur mon Facebook, comme ça, vous pourrez aller voir. Merci beaucoup, Lise, puis bonne chance. Louise est avec nous. Bonjour, Louise.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bon, donc, moi, j'ai eu un diagnostic il y a peut-être 15-20 ans de fibromyalgie, qui, je pense, est un diagnostic poubelle, parce que quand on ne sait pas trop... puis pour avoir été dans un organisme là avec en tout cas j'avais pas j'ai beaucoup de symptômes, mais en tout cas je suis quelqu'un qui est dynamique, qui arrête pas, qui est jamais fatigué, qui jusqu'à 62 peut-être j'arrive à 65, je commence à être un peu plus fatiguée. Alors, je trouvais que ça concordait.
Ben, c'est très bizarre, parce que la fibromyalgie, un des premiers symptômes, c'est une fatigue chronique, justement. Donc, si vous êtes très active...
J'ai arrêté de travailler, là. J'ai arrêté d'être fatiguée, puis d'être... ça fait 10 ans que je travaille plus.
Ben, peut-être que c'était un burn-out que vous aviez à ce moment-là. En tout cas, je veux pas faire pas faire jouer à la médecin. Il y en a assez qui le font, mais...
Mais les douleurs étaient là, là. J'avais des douleurs, puis bon, j'avais souvent des tendinites à répétition. Mais la recette qu'on m'a donnée, là, en fait, c'est du Lyrica, du Cymbalta, du Trazodone, et je prends aussi quelque chose pour le... J'oublie le nom, là, c'est bleu, pour l'estomac, pour les brûlements d'estomac, parce que, bon, j'en avais beaucoup. Et je prends tout ça depuis 10 ans. À chaque fois que je demande d'arrêter, moi-même, je me suis diminuée. Le Lyrica, je le prends que 60... Le médecin voudrait que je l'augmente tout le temps. Je prends 75 par jour, milligrammes. Le Cymbalta, 20 mg seulement. Et, bon, l'autre médicament pour l'estomac, tous les jours. Puis le Trazodone, je suis rendue à une demi, puis des fois, je le coupe. Mais j'ai la thérapie que vous parlez, là, je l'ai en main, que j'ai une amie qui me l'a imprimée, et j'ai commencé à utiliser ça. Mais moi, c'est le Lyrica. C'est une acupunctrice asiatique qui m'a fortement recommandé d'arrêter de prendre ce médicament-là. Sauf que à chaque fois que je fais le test de l'arrêter, on dirait que c'est des chocs nerveux là, dans mon corps. Des douleurs, c'est vraiment là. Je l'arrête jamais plus que 2-3 jours parce que c'est comme des coups de couteau dans le dos ou des chocs électriques, là.
Oui, peut-être Denis.
Oui, tout à fait. En fait, on parle de fibromyalgie, on parle de douleur articulaire, et là, ça interpelle sûrement plusieurs auditeurs. Madame parle du Lyrica. Ouais. Louise, c'est-à-dire, parle du Lyrica. Il y a des médicaments qui agissent sur le système nerveux pour aller contrôler, diminuer la douleur. Et ces médicaments-là, Cara parlait de cascade. Ben, quand on a des médicaments qui agissent sur le système nerveux, il faut être absolument vigilant là-dessus. Il y a parfois des effets secondaires qui sont assez contre-productifs. Ça, c'est une chose. Et par rapport à plusieurs de ces types de médicaments-là, je me répète, leur utilisation à long terme, pendant 10, 15, 20 ans, n'a pas été démontrée. Et c'est un problème, Isabelle. C'est un problème. Donc, d'arrêter ce médicament-là, ça devient extrêmement complexe. Cara pourra commenter. Mais en fait, c'est parce que, Isabelle, la santé, c'est pas juste les médicaments. La prévention de la douleur, c'est pas juste les médicaments. Et le soulagement aussi de la douleur. Donc, il faut avoir des interventions qui sont beaucoup plus adaptées à des problèmes qui sont complexes comme ça. Et je reprends l'exemple des opioïdes et des benzodiazépines. Ouais. En 2014, Isabelle, ce cocktail-là, on le donnait à Dennis McGuire pour la peine de mort. Je veux dire, c'est ça qu'on a utilisé pour le tuer. En 2014, et ça, c'est le Washington Post.
Attends,
rappelle
ça là. Ça vient de nous.
Donc, les opioïdes ouais, avec les benzodiazépines, on a pris ce cocktail-là comme cocktail pour la peine de mort, pour tuer
pour
un
même
prisonnier.
Dose,
pas
là,
aux mêmes doses, non,
mais ça veut dire que les deux,
c'est
ouais,
quand même les mêmes médicaments. Ouais. Donc, je ne suis pas en train de dire arrêter tout le monde ces médicaments-là. Surtout pas, je ne veux pas du tout laisser sous-entendre ça. Mais il faut se dire que la santé, c'est aussi autre chose que des médicaments. Et quand on les prend depuis longtemps, des arrêter, on a besoin de médecins comme Cara, de notre médecin de famille, pour les réduire, en fait, ces médicaments-là.
Et ça, tu viens de dire une phrase fabuleuse, Denis. Tu viens de dire, la santé, c'est autre chose que de prendre des médicaments. Et c'est ça qu'il faut aussi se dire de plus en plus, nous. Il faut se responsabiliser par rapport à notre santé en se disant, peut-être que j'aurais avantage à poser plus de questions puis à questionner chacun des médicaments. Le pantoloque, là, tout le monde a l'air être dessus, là, je pense qu'il est dans la liste des 10 médicaments les plus prescrits. C'est ce fameux médicament que vous prenez si vous avez des brûlures d'estomac. Puis moi, je m'en suis fait prescrire aussi pendant des années. À un moment donné, t'arrêtes parce que tu te dis t'es tanné. Puis est-ce que t'as vraiment plus de problèmes? Pas sûr. T'sais? Peut-être qu'en changeant son alimentation, en faisant attention justement à ce qu'on ingère, tu as moins de problèmes de reflux. Mais...
Oui, mais ces médicaments-là.
De toute façon, le pantologue, maintenant, il y a tellement eu de la surprescription, les assurances ne le remboursent même plus.
D'une part, et ce médicament-là, Cara, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas fait pour être prescrit pendant 10 ans.
Non, c'est deux semaines
pas
de traitement normal.
Exactement, mais on le prescrit. Et ça, Isabelle, je me répète, hein, c'est des millions et des millions et des millions pour ce type de médicament-là. Dans les années 2013, c'est 250 millions par année qu'on a mis là-dedans.
Ouais.
Non, mais c'est parce que c'est des ressources. Il y a un choix, hein. Il ne faut pas être naïf. Il y a un choix qui est fait. Bon, donc, l'idée, encore, je me répète, j'en parle dans mon livre, l'idée, c'est pas de jeter nos médicaments aux poubelles, mais surtout pas, mais de réfléchir, de se poser des questions et de se dire que la santé, ça commence d'abord parce qu'on fait, pas parce que l'on prend.
Mais c'est intéressant aussi, toute la notion, tu disais tout à l'heure, c'est politique, il y a des choix à faire. Je vais vous dire, après la pause, on a une petite idée. À qui ça profite, d'après vous? À qui ça profite cette surmédicalisation, cette surprescription? À tout de suite, tout le monde. On se demande si on ne devrait pas réduire un peu notre façon de prendre des médicaments, c'est-à-dire d'en prendre moins d'abord et aussi de se questionner. Christelle, bonjour, vous écoutez notre discussion. Est-ce que vous vous êtes mis à compter les pilules que vous preniez par jour, par hasard?
Oui. Ben, dans le fond, moi, c'est pour mes enfants, mes deux garçons, puis... Surtout mon plus vieux qui va bientôt 9 ans, ça fait depuis l'âge de 5 ans qu'il prend la médication. Mm. Au début, c'était pas si pire. C'était pour traiter son TDAH qui n'a pas été évalué encore à l'âge de 5 ans. Il était juste soupçonné qu'il avait un TDAH.
Mais il prend un médicament contre le TDAH, mais en tout cas pour aider son TDAH, même s'il n'y a pas eu de diagnostic de TDAH?
Exactement, au début. Après ça, ça fait tout récemment là, qu'on a vraiment eu le diagnostic officiel du neuropsychologue. Avant ça, dans sa première année, c'était à l'école là, qu'il avait évalué, puis qu'il avait dit que avec son médecin, avec un formulaire qu'on remplit, dans son les parents à l'école et tout, qu'on s'est dit bon, ok, il a l'air d'avoir un TDAH. Fait que là, on a prescrit sans aller voir si vraiment c'était un enfant qui vivait beaucoup beaucoup d'anxiété. Fait que là, si on donne un stimulant, ben là, ça donnait plus d'anxiété. Fait qu'il dormait pas. Fait que là, on était rendu à deux médicaments. Ils ont rajouté un autre médicament pour enlever le peu d'anxiété que ça lui causait aussi. Et après ça, écoute, ça l'arrêtait pas. Après ça, il voulait donner un troisième médicament que j'avais essayé aussi pour aider à dormir. Je n'étais plus bien là-dedans, donner beaucoup, beaucoup de médicaments comme ça avec mon fils. Mm-hmm. Après ça, mon deuxième fils aussi montre les mêmes symptômes que son premier fils. Et là, c'est là que je me suis dit, là, je passe plus, je fais pas la même erreur.
Ouais.
Mm-hmm. Je vais pas passer par des tests. On a tellement fait de médicaments et je suis encore dans la même situation.
Vous aimeriez quoi, là?
Ben là, j'essaie de diminuer. J'ai vraiment diminué. Elle voulait rajouter le Prozac à son mélange de cocktails. Elle me rassurait que c'était super bien testé. Puis en tout cas, moi, j'ai fait les recherches de mon côté. Je suis comme non. Elle ne m'a même pas demandé d'essayer d'enlever les stresseurs. Qu'est-ce qui est stressant dans ta vie ou qui peut causer l'anxiété? Fait que j'ai vraiment, c'est le côté nutrition, ça fait un petit bout qu'on a déjà coupé tout ce qui est sucre. J'essaie vraiment d'enlever.
Oui. Voyez-vous une différence? Avez-vous vu une différence avec le sucre en moins?
Ça fait 3 ans que j'ai vraiment enlevé le sucre. Ça fait 2 ans, 2-3 ans. Oui, un peu, là. Surtout le matin, c'est ça, des bols de Fruit Loops. J'ai rien contre ça. Je pense que c'est chacun son opinion là-dessus, mais de juste leur donner, juste d'être plus alerte un peu de ce qu'on leur donne, mais vraiment d'aller diminuer. C'est mon but cette année, là, je suis allée voir en naturo, voir qu'est-ce qu'on peut enlever.
Puis des fois, c'est l'école. À l'école, est-ce que ça se passe bien?
Non, ça va vraiment pas bien. Ouais. Puis on a misère à gérer aussi. Fait que... C'est juste, on trouve qu'on est en manque de ressources. Puis quand on veut plus faire la médication, là, dans le fond, on a dit, OK, mais si tu veux pas me donner Prozac, ben, on se revoit quand que tu vas avoir changé d'idée.
Mais il y a 9 ans, imaginez, traîner ça jusqu'en secondaire 5, encore 7 ans, ça se peut pas, là.
Non, c'est ça. En tant que maman, tu sais, je veux vraiment essayer de l'aider le plus possible. Lui-même, il me dit qu'il aime pas ça, prendre sa médication. Puis je le vois, il est pas bien, il est irritable. Fait que là, j'essaie vraiment avec la naturopathe et tout. On essaie de travailler ensemble pour enlever la médication de tout
Christelle,
ça.
Christelle, restez en onde. On réglera pas votre problème là tout de suite, mais je pense que ça vaut la peine qu'on prenne de vos nouvelles puis qu'on ait peut-être qu'on puisse vous mettre en lien avec quelqu'un. On va prendre vos coordonnées tout de suite après ceci. Okay. Merci de votre appel. Il nous reste une minute pour conclure, Dr. Tannenbaum. 30 secondes.
Mes conseils sont demandés à votre médecin, à votre pharmacien, à votre infirmière, à un psychologue. Ai-je encore toujours besoin de ce médicament? Ouais. Puis si vous voulez en discontinuer ou de déprescrire, c'est vrai lentement. Ouais. Ne pas arrêter les médicaments. Je ne veux pas que les gens vont arrêter leurs médicaments aujourd'hui.
On comprend
mais
qu'il faut y aller.
Poser la question, commencer la discussion, sensibiliser tout le monde. Merci.
Merci beaucoup, docteur Cara Tannenbaum, qui est directrice du Réseau canadien pour la déprescription. Le site internet www.réseaudesprescriptions.ca. Denis Fortier, auteur de « C'est normal à votre âge ?» Non, ça ne l'est pas.
Justement, c'est normal à votre âge. C'est pas normal à votre âge de prendre 22, 10, exact. 12, 5 médications. Le sevrage, c'est absolument fondamental qu'il soit bien fait dans les règles de l'art, mais posez-vous des questions par rapport aux médicaments. Il y a des solutions qu'on peut mettre en place aussi dans ce qu'on fait.
Il faut quand même le dire aussi, la surmédicalisation, tu le dis, ça profite à plusieurs, notamment aux compagnies pharmaceutiques et à l'industrie anti-âge. Mm-hmm. Alors, ne vous laissez pas enfiroiper, comme on dit. Merci à tous les deux, ça a été très éducatif. Merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.